La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, en Jésus le Christ, notre frère et notre sauveur. Bienvenue à vous tous dans cette maison, bienvenue pour ce culte ce matin où nous allons partager ensemble un moment important pour notre communauté. Deux baptêmes vont être célébrés pour deux familles qui se sont approchées de nous pour demander le baptême ce matin dans cette communauté. Bienvenue aux familles des baptisés, bienvenue à vous qui êtes avec nous peut-être pour la première fois, vous êtes ici chez vous et vous pouvez ici revenir quand vous le voudrez pour écouter ce que nous pouvons dire de la Bible et ce que nous pouvons proclamer de bonnes nouvelles. Je vous invite à la prière pour entrer dans ce temps de culte. Père, rassemblé ce matin dans cette église, permet que nous soyons une communauté vivante et joyeuse autour des enfants qui vont recevoir le signe de ta grâce. Que ton esprit soit sur nous comme l'eau du baptême va couler sur le front de ces enfants. Permet, Seigneur, que nous soyons tous dans la même fraternité. Amen. Et je vous invite à nous réunir dans la communion fraternelle avec le premier répond que vous allez trouver à l'entrée des psautiers français. J'espère que vous avez tous pris à l'entrée les livres, donc un psautier et un petit recueil louanges et prières. Et à l'intérieur, vous avez toute la liturgie. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à demander. Dieu, et nous louons Dieu avec une prière de louange de Augustin d'Hippone. Lorsque j'aime mon Dieu, mais aussi ciel et terre et tout ce qu'ils contiennent, les voici me disant de partout de t'aimer. Mais qu'est-ce donc que j'aime quand je t'aime, Seigneur ? Non la beauté d'un corps, ni le charme d'un temps, ni la brillance de la lumière, cet ami de mes yeux d'ici-bas, ni les douces mélodies des chants de toutes sortes, ni des fleurs, des parfums, des aromates, la suave odeur, ni la manne et le miel, ni les membres ouverts aux charnelles étreintes, non, ce n'est pas ce que j'aime lorsque j'aime mon Dieu, et pourtant j'aime. Une certaine lumière, une certaine voix et un certain parfum, un certain aliment et une certaine étreinte. Lorsque j'aime mon Dieu, lumière, voix, parfum, aliment, étreinte de l'homme intérieur qui en moi est présent, où brille pour mon âme ce que l'espace ne peut enfermer, où résonne pour elle ce que le temps ne peut voler, où s'exhale un parfum que le vent ne dissipe, où se savoure un mets que la voracité ne réduit, où se noue une étreinte que la satiété ne dessert. Oui, voilà ce que j'aime lorsque j'aime mon Dieu. Amen. Je vous invite à louer le Seigneur avec le psaume 47 dans les psautiers français, les strophes 1, 2 et 3. Je vous invite à vous asseoir. Écoutons le chant du psalmiste. Il nous rappelle comment vivre avec le Seigneur. Si ce n'est le Seigneur qui bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si ce n'est le Seigneur qui garde la ville, celui qui la garde veille en vain. C'est inutilement que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard et que vous mangez le pain de la peine. Il en donne autant à son bien-aimé pendant qu'il dort. Présentons devant le Seigneur et avec le théologien André Dumas, nous partageons sa prière. Seigneur Dieu, j'ai besoin de déposer devant toi le poids lassant de mon péché. J'ai besoin que cessent les alibis et les excuses qui ne trompent personne et surtout pas moi. J'ai besoin que cessent les regrets et les tourments qui ne délivrent personne et surtout pas moi. J'ai besoin de déposer entre tes mains le sac de nœuds où je m'étouffe en vain. J'ai besoin de quelqu'un auprès de qui je puisse confesser mon trouble et mon secret, d'en finir avec les soucis qui m'assaillent du dehors et avec les tourments qui me rongent du dedans. J'ai besoin de la tranquillité de ta bonté, Seigneur. Ô Dieu, j'ai besoin de toi. Le Seigneur entend celui qui se tourne vers lui. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas pour toujours en procès, il ne maintient pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour. Pour qui place sa confiance en lui. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Comme la tendresse du Père pour ses fils est la tendresse du Seigneur, pour qui place sa confiance en lui. Soyons confiants dans le Seigneur. Amen. Et je vous invite à chanter en vous levant votre reconnaissance pour cette grâce renouvelée sur nous. Je vous invite à vous asseoir. Voilà, nous allons maintenant entrer dans la liturgie des baptêmes. Chers amis qui venez ici avec vos enfants pour qu'ils reçoivent le baptême, je vous invite maintenant à me rejoindre et à prendre place, les parents et parrains et marraines, autour de moi pour ce moment que nous allons vivre ensemble. Voilà, venez, venez. Ça va aller?
On va le faire quand même. Voilà.
Là, tout joli. Voilà, je vous invite maintenant à vous lever pour que nous confessions ensemble notre foi. Évidemment, les deux familles d'aujourd'hui avaient des choix de confession de foi différents. Et nous avons fait donc le choix de partager une confession de foi qui puisse convenir aux deux familles. J'espère que tout ira bien et que vous serez d'accord avec ce qui va être dit maintenant. Dieu, nous le cherchons sans jamais le trouver. Quand nous nous adressons à lui, nous espérons qu'il nous entend, mais nous n'en savons rien. On nous a dit qu'il est lumière, nourriture et vie, amour, justice et paix. Nous voudrions le croire, mais ce sont des hommes qui nous ont dit tout cela. Comment une parole d'homme pourrait-elle devenir parole de Dieu? Pourtant, nous croyons que nous ne sommes pas seuls, qu'il fait le monde pour le bonheur et pour la vie. Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, nous croyons en Dieu. Nous croyons qu'il travaille en nous par son esprit pour nous apporter la réconciliation et le renouveau. Nous avons confiance en lui. Il nous appelle à nous rassembler pour célébrer sa présence, pour aimer et servir les autres, pour rechercher ce qui est juste et résister au mal. Nous proclamons le royaume de Dieu dans la vie, dans la mort, dans la vie après la mort. Il est avec nous, nous ne sommes pas seuls, nous croyons en Dieu. Cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Je vous invite à vous asseoir. Voilà un petit bébé qui s'est réveillé tout de suite et qui sourit déjà. Voici la volonté de Jésus-Christ pour son Église. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre, allez de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Chers amis, vos enfants vont être baptisés au nom du Père qui lui donne le souffle de vie. Ils vont être baptisés au nom du Fils, Jésus-Christ, mort et ressuscité, qui les appelle à son service. Ils vont être baptisés au nom du Saint-Esprit qui fera naître en eux, et c'est notre commune espérance, la foi, l'espérance et l'amour. Il y a de l'eau ici dans ce baptistère qui est de l'eau tout à fait ordinaire. Il n'y a rien de magique dans l'eau du baptême quand elle est ainsi. Elle aurait pu servir à donner à boire à un de ses enfants qui sont là aujourd'hui avec nous. Mais avec la parole de Dieu, cette eau devient eau sacramentelle, eau du sacrement de baptême. C'est l'eau d'une nouvelle naissance, une naissance spirituelle avec Dieu pour ses enfants. Chaque jour, notre propre baptême nous rappelle que nous dépendons de Dieu et qu'ensemble, nous vivons de son amour. Nous croyons que cela est vrai pour nos enfants, quand bien même ils ne le sauraient pas encore. Nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Sa grâce est première, c'est notre foi. Je vous invite tous à vous lever pour être témoin du baptême du petit garçon de la famille Hellman. Dieu nous l'a promis, nous sommes à lui, il nous connaît chacun par notre nom. Claire et Samuel Richard, quel prénom avez-vous choisi pour votre enfant ?
Marc-Olivier. Marc-Olivier.
Voilà, je vais maintenant procéder au baptême de ce petit garçon. Tu viens avec moi ? Oui, ça va aller ? Alors, c'est le moment de la confiance. À cet âge-là, c'est difficile de se pencher comme ça pour recevoir un baptême. Marc-Olivier, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Marc-Olivier, cette parole est vraie aussi pour toi. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Voilà, Marc-Olivier est maintenant baptisé et dans notre famille spirituelle. Il fera ce qu'il veut, bien sûr, de ce baptême, mais nous serons avec lui pour l'accompagner. Je vais maintenant vous inviter à dire les quelques mots que vous avez choisi de dire pour prononcer des vœux sur ce baptême, prononcer quelques mots sur cet événement important pour Marc-Olivier. Je vais chercher le micro qui est là. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors, quand Samuel Richard aura réussi à récupérer ses lunettes, nous pourrons écouter. Mais Marc-Olivier, si tu savais comme c'est casse-pied des lunettes, tu n'en voudrais pas. Voilà, ça y est.
Marc-Olivier, tu es un rayon de soleil. La joie de vivre se lit sur ton visage. Marc-Olivier, nous te souhaitons de grand bonheur. Que tu sois éclairé par la lumière, l'espérance et l'avance. Nous serons toujours à tes côtés.
Voilà, et si tu veux toucher ça, voilà. Il ne faut pas le casser seulement. Et ce n'est pas une sucette. Voilà. Voilà. Merci à vous. Et je vais maintenant procéder au baptême de ce tout petit qui doit se dire « Mais quelle effervescence, qu'est-ce qui va m'arriver ?» Dieu nous l'a promis, nous sommes à lui et il nous connaît chacun par notre nom. Camille et Mathieu, quel prénom avez-vous choisi pour votre enfant ?
Balthazar.
Alors je vais maintenant procéder au baptême du petit Balthazar. Voilà. Allez-y, ça va aller ? On va se mettre comme ça, oui. Balthazar, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Balthazar, pour toi aussi, cette parole est vraie. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Je vais vous inviter à prononcer les paroles que vous voulez dire maintenant pour votre petit garçon et pour votre filleul, car je crois qu'il y a aussi un petit mot de la part des parents marraines.
Balthazar, aujourd'hui c'est le jour de ton baptême, le départ pour une grande marche vers la foi. Tu as un papa catholique et une maman protestante, mais nous croyons tous les deux qu'il n'y a pas qu'une seule manière de vivre sa foi, d'espérer. Nous avons choisi de te laisser libre du chemin que tu souhaiteras prendre. Pour te guider sur cette route, chacun d'entre nous t'apportera l'éclairage qui lui est propre.
Vous voulez le petit livre ? Pardon, excuse-moi.
Qu'il a été long le chemin pour t'avoir jusque dans nos bras, mais nous avons été portés par l'espérance, par notre foi.
Ton papa et moi, nous avons donc choisi de te faire baptiser, de te proposer de devenir chrétien, de t'initier à la foi, à cette espérance qui est parfois un vrai soutien sur le chemin de la vie et de ses batailles. Le chemin de chrétien non plus n'est pas facile. Loin d'être un chemin de certitude, c'est un chemin d'interrogation, de questionnement, d'humilité. À nouveau, pour te guider sur le chemin de la foi, nous avons choisi un parrain et une marraine vers qui tu pourras te tourner. Bonne route, Balthazar. Mon petit Balthazar, être ta marraine est une grande joie. Mais comment savoir si je serai à la hauteur, si je saurai répondre à des questions que je me pose peut-être aussi. En y réfléchissant, ce n'est sûrement pas un guide que je dois être. C'est plutôt un compagnon de route. Oui, c'est ça. Être à tes côtés sur ton chemin de foi, quelles que soient les directions que tu prendras. Je ne sais pas toi, mais moi, ce que je préfère dans la marche, ce sont les pauses. Bon, tes oncles et tantes diront que c'est pour le pique-nique. Mais c'est surtout parce que c'est un temps privilégié de contemplation, de dénuement, de prise de recul. Alors, je t'en proposerai régulièrement des pauses dans nos vies trop remplies et qui s'accélèrent. Ce sera des moments de partage, sans crainte, de nos questions, nos réflexions, nos idées de prière, nos difficultés et notre espérance dans le cheminement vers Dieu. Le baptême, c'est une première pause. Il est pas mal le point de vue, non ? Regarde toute cette communauté assemblée. Elle manifeste la joie de t'accueillir et sa présence auprès de toi. Aujourd'hui, nous te signifions que Dieu t'aime depuis ta naissance, sans condition. Et juste pour entendre et prendre conscience de cette nouvelle, ça valait le coup de s'arrêter, non ? Dans un moment, tu reprendras la route et je serai là, près de toi.
Merci beaucoup. Je vais maintenant vous inviter à vous asseoir et je vais vous présenter ces deux enfants s'ils acceptent de venir avec moi. Oui ? Bon. Samuel Richard est très confiant pour Marc-Olivier. Je le suis un peu moins, mais ça va passer. Et regarde, regarde. Marc-Olivier, regarde si on se promène. Alors là, il me faut quelqu'un d'autre parce que vraiment, je prends trop de risques sinon. C'est pour le petit que c'est dangereux après. Donc, voilà. Alors voilà, Marc-Olivier et Balthazar, vos nouveaux petits frères dans la foi. Ils sont là avec nous dans cette église. Vous assurez par votre prière et votre attention à eux que vous êtes avec eux dans l'église. Ils sont enfants de Dieu. Vous serez là pour eux et pour leur famille. Bien sûr, s'ils viennent à se séparer de cette église, vous devrez toujours affirmer qu'ils peuvent toujours y retrouver leur place. Ce sera pour eux la preuve de l'amour inconditionnel de Dieu pour eux, rien ne pourra les séparer de cet amour donné en premier. Voilà, vous connaissez maintenant vos deux nouveaux petits frères, Marc-Olivier et Balthazar. Vous avez le droit d'applaudir, ce n'est pas interdit dans un temple. Dans le temple, ce sont les gens qui sont sacrés, pas les murs. Je vous invite maintenant à passer, sans plus attendre, à l'écoute de la lecture biblique. Je vais vous inviter à regagner vos places. Merci beaucoup pour ce beau moment. Ce matin, j'ai choisi de prendre un passage de l'évangile de Luc. Dans le chapitre 15, une parabole de Jésus que vous connaissez sans doute pour beaucoup. Tous les collecteurs des taxes et les pêcheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes maugréaient en disant « Celui-ci accueille les pécheurs et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Qui d'entre vous, s'il a 100 moutons et qu'il en perd un, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller avec celui qui est perdu jusqu'à ce qu'il le trouve ? Lorsqu'il l'a trouvé, il le met avec joie sur ses épaules. » Et de retour à la maison, il appelle chez lui ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé le mouton qui était perdu. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui est retrouvé que pour 99 justes qui n'ont pas eu besoin de repentance. » Je vous invite à chanter ensemble le cantique 204, « Seigneur, dirige et sanctifie », les strophes 1 et 2.
Thank you.
Et ce matin, je vous propose de prier avant la prédication avec Nicolas Malebranche, qui fut un des prédicateurs ici il y a très longtemps. Ô Maître, apprenez-moi à faire oraison. Aidez-moi à faire taire mes sens et mes passions, ou élevez votre voix afin que, malgré le bruit confus qui s'excite en moi, j'entende clairement vos réponses. Mon esprit travaille par son attention, mais souvent ses efforts sont inutiles. Mon imagination inquiète et chagrine de ce que je m'applique à des sujets où elle n'entend rien. Viens à la traverse et dissipe toutes mes idées avant qu'elles aient passé jusqu'au cœur. Verbe fait chair, raison des intelligences qui avaient pris un corps afin de rendre la vérité sensible à des hommes charnels, accommodez-vous à ma faiblesse. Parlez-moi d'abord un langage qui n'effraie point toutes les puissances de mon âme. Vous savez que je veux invinciblement être heureux. Donnez-moi donc dans l'oraison l'avant-goût des vrais biens, afin que je les désire. Donnez-moi le goût des faux biens, afin qu'ils me fassent horreur. Soutenez par la douceur de votre grâce l'attention de mon esprit. Amen. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui change radicalement que pour 99 justes qui n'ont pas besoin d'un changement radical. Quand on parle du péché et des pécheurs, ce n'est généralement pas la notion de joie qui vient tout de suite à l'esprit. Et c'est tellement vrai qu'un grand nombre d'églises, sous prétexte que le péché agirait sur les fidèles comme un repoussoir, ne veulent plus parler de péché dans les cultes qu'elles rendent à Dieu. On loue le Seigneur, on chante sa joie, on proclame la foi en un Dieu qui rend fort, on se réjouit ensemble de la bonne nouvelle du salut de Jésus-Christ, mais on oublie de quoi on a bien pu être sauvé. Et même si on ne l'a jamais été. Il est vrai qu'il y a de la joie pour les frères et les sœurs de se retrouver ensemble le dimanche et que l'on ne va pas au culte pour entendre une parole déprimante ou culpabilisante, mais plutôt cette parole qui relève l'homme. Cette bonne nouvelle que nous appelons dans notre tradition de la façon grecque « évangile ». La joie est plus désirée encore quand on baptise de tout petits enfants, comme ce matin, et on aurait bien de la peine à dire d'eux qu'ils sont des pécheurs, tant ils sont innocents de toute faute. Pourtant, le baptême, même quand il s'adresse à de petits enfants, est le signe d'une promesse de passage du péché au salut, par le sacrement reçu. L'enfant reçoit cette promesse de salut inconditionnellement de Dieu. Et Dieu le donne à tout être qui pourrait être perdu. Être chrétien a donc à voir à la fois avec le péché et avec la joie. Quand l'évangile de Luc met en scène Jésus racontant la parabole du mouton perdu, ou de la brebis perdue, ça dépend des traductions, il le place à la croisée de deux attitudes. D'une part, l'attitude des pharisiens et des scribes qui pensent combattre le péché en triant, tout simplement, entre les hommes pécheurs et les hommes sauvés. En se mettant à l'abri des pécheurs, ils ont l'impression qu'ils vont toujours rester purs et sans péché. D'autre part, l'attitude des collecteurs d'impôts et des pécheurs qui, eux, cherchent une parole de salut pour être intégrés dans le peuple de Dieu et qui s'approchent alors de Jésus pour obtenir cette homologation, croyant qu'une fois qu'ils l'auront, peut-être que tout sera fait. Qui sont ces gens dans l'histoire que nous raconte Luc ? La fonction de scribe est d'abord celle de comptable du royaume, puis de secrétaire du roi, puis elle va devenir au fil de l'histoire une fonction religieuse, de spécialiste des Écritures saintes. Selon les évangiles, les scribes ne sont pas toujours présentés avec autant de férocité, cela dépend. Quand dans l'évangile de Marc, les scribes sont des ennemis de Jésus, dans Matthieu, sans doute écrit par un scribe converti, les scribes sont capables de clairvoyance et de changement radical. Chez Luc, les scribes maugraient avec les pharisiens. Ces deux figures d'opposition à Jésus semblent s'allier contre ceux qu'ils considèrent comme des pécheurs. Les pharisiens sont adeptes d'un parti religieux dont le nom vient d'un terme hébreu qui signifie les séparer. Ils veulent donc vivre comme des êtres purs, séparés des pécheurs. Cette attitude est une forme d'arrogance, car qui peut dire de lui-même qu'il est pur de tout péché ? Ce qui les rapproche des scribes, les pharisiens, c'est l'étude de l'Écriture qu'ils prennent comme critère de tout comportement humain, comme si l'on pouvait adapter directement ce qui est dit dans la Torah. Le passage des Écritures à la pratique donne alors un rigorisme qui les amène à juger et à condamner facilement leurs contemporains. L'évangile de Luc dit qu'il maugrait en voyant les collecteurs des taxes et les pécheurs s'approcher de Jésus. Dans la Torah, ceux qui maugraient sont les Israélites eux-mêmes. Dans le livre de l'Exode, toute la communauté des Israélites maugrait contre Moïse parce qu'ils ne lui font pas confiance. Ils ont peur de manquer d'eau d'abord, puis ils ont peur de manquer de nourriture. Ils se rebellent contre le chef que Dieu leur a envoyé. Ce terme dans l'évangile de Luc met donc Jésus dans la posture de l'envoyé de Dieu, comme Moïse, dont le peuple conteste l'autorité. Avant même qu'il ait accompli la promesse de Dieu, ils savent déjà qu'il a tort et qu'il est sur la mauvaise voie. Jésus raconte alors à tout ce monde une parabole. Une histoire qui fait appel au jugement de ses auditeurs en les plaçant dans une fiction qui prend la forme de la réalité. Il les invite à se positionner dans une expérience de pensée en commençant par ces termes. Lequel d'entre vous, grâce à cette question, tous ces auditeurs deviennent alors des bergers qui ont perdu un de leurs 100 moutons? Ils sont invités à prendre le point de vue du berger et à se poser la question de ce qu'ils feraient, eux, à sa place. Alors, qui est ce berger? La figure du berger dans la Bible est celle du roi, du chef qui conduit le peuple, en tout cas celui qui est choisi par Dieu pour mener à bien l'accomplissement de sa promesse. Jésus parle donc de lui-même et invite ceux qui connaissent les Écritures à prendre le parti de Dieu puisqu'il a été choisi par lui. Comment les scribes et les pharisiens pourraient-ils alors contester son autorité? Lui, le nouveau Moïse, le nouveau berger. Il s'agit d'une histoire banale pour l'époque, une histoire de mouton perdu. Mais derrière ce mouton, il y a la question qui tient tellement à cœur aux scribes et aux pharisiens, celle du péché. Car être pécheur, pour eux, c'est être perdu aux yeux de Dieu. C'est même souvent être irrécupérable. À qui ressemble-t-il ce mouton qui a quitté le troupeau, qui ne marche pas du même pas que les autres, qui prend la liberté de prendre une autre route? Il semble à ces collecteurs de taxes qui travaillent pour l'ennemi romain et s'enrichissent avec l'argent de l'occupation. Ils sont vus comme des traîtres par les autres juifs de leur époque. Quant aux pécheurs, c'est un terme assez vague. On ne sait pas très bien ce qu'ils ont fait pour être qualifiés de pécheurs. Ce sont ceux qui ratent la vocation donnée par Dieu, qui font ce qui déplaît à Dieu selon les pharisiens, qui ne sont pas conformes aux préceptes de la Torah. Il y a bien sûr dans ce groupe les prostituées, les impurs, ceux qui ne correspondent pas à la pureté du temple, les malades ou les handicapés qui portent avec eux quelque chose d'impur en eux, parfois d'irrémédiable et qu'on ne comprend pas, alors on met ça sur le dos du péché. Il n'y a pas de remède, ils vivront toute leur vie parfois avec cette marginalité. Il y a les adultères qui ne se sont pas repentis, il y a les personnes stériles. Les hommes stériles ne pouvaient pas servir au temple et ne pouvaient même pas apporter leurs offrandes au temple. Tous ceux qui sont exclus du temple et de ses rites parce qu'ils portent en eux la marque d'une indignité, tout cela, il faut bien qu'ils aient fait quelque chose de mal pour être ainsi punis par Dieu. Voilà à peu près la pensée de ceux qui les discriminent. La petite histoire de Jésus décrit à elle seule une société qui se vit comme un troupeau, qui suit la norme et marginalise ceux qui osent s'écarter de la route. Dans toutes les sociétés, il y a des normes comme celle-là. Dans la nôtre, ce n'est plus celle de la pureté du temple, mais ce sont d'autres normes qui s'imposent. Le berger de l'histoire de Jésus est un peu inconscient. Il est prêt à mettre en danger 99 moutons pour en sauver un seul qui manque à l'appel. N'est-ce pas une faute? Après tout, s'il s'est perdu, n'est-ce pas lui qui l'a bien voulu? N'est-il pas trop faible pour suivre le rythme du troupeau? À quoi bon le rattraper? Ne serait-il pas plus simple de s'en débarrasser en l'oubliant dans le désert? Nos sociétés aussi parfois oublient ceux qui ont pris un autre chemin et se sont égarés. Pourtant, sans ce mouton, le troupeau n'est pas complet et le peuple de Dieu n'est plus entier. Jésus parle de cette perfection de l'unité visée par la promesse de Dieu. Si tous les enfants de Dieu ne sont pas sauvés, alors le salut ne sert à rien. N'est-ce pas pour les boiteux et les pécheurs que le salut est fait? N'est-il pas venu pour tous? Dans cette petite histoire, c'est notre regard sur notre prochain qui est questionné. C'est aussi notre projet de société qui est remis en cause. La norme morale selon laquelle il est facile de juger l'autre, l'obligation de réussir à suivre le rythme que nos sociétés infligent à tous, le droit au ratage, à l'erreur, à la fatigue, à l'égarement, se retrouve dans cette histoire de mouton qui n'a pas suivi le troupeau. Là où l'échec rend indigne, là où la différence exaspère le plus grand nombre, là où la faiblesse est pitoyable, Jésus affirme la possibilité d'un changement radical et d'une joie. Évidemment, ce n'est pas l'échec qui rend joyeux. L'échec, il faut le subir, le traverser. Et ça ne fait plaisir à personne. Ce n'est pas le péché. Le péché, c'est la coupure avec Dieu, et cela rend seul. Ce n'est pas l'errance, le moment où l'on ne sait plus du tout comment orienter sa propre vie. Ce n'est pas tout cela qui donne la joie. La joie provient du mouvement entre le perdu et le retrouvé, entre l'indigne et le digne, entre le marginal et l'ami, entre le pécheur et le saint de Dieu. C'est dans cet écart entre les deux et dans ce mouvement de l'un à l'autre, dans cette évolution, que se trouve la joie. Dans l'écart entre ces statuts antinomiques, Jésus déploie la joie du changement radical. La joie de voir la promesse de Dieu s'accomplir, de voir l'homme déchu se relever, de voir l'homme pécheur sauvé. Le philosophe Spinoza écrit au XVIIe siècle ces mots sur la joie. Il définit la joie dans son Éthique en ces termes. La joie est une exultation née de l'image d'une chose passée dont l'issue a été tenue par nous pour douteuse. Il veut dire qu'en considérant le peu de probabilité pour que la chose se produise et le fait qu'elle se soit produite, le présent nous fait mesurer un écart qui rend joyeux. On est d'autant plus joyeux que cet écart était grand, que la probabilité était mince. La parabole de Jésus nous dit à peu près la même chose. Moins il y a d'espoir pour qu'un pécheur soit sauvé, plus il y a de joie dans le ciel quand ce changement radical arrive. Il n'est donc pas permis aux chrétiens de désespérer du salut. Car aussi improbable que puisse paraître l'advenue du changement radical, de la conversion d'un être, le salut de Dieu s'adresse précisément à celui-là. Calvin, dans son Institution chrétienne, distingue deux sortes de péchés, celui que le diable nous inspire pour faire le mal, comme il dit, et celui qui consiste à céder au désespoir dans notre capacité à traverser les épreuves avec Dieu. Ne pas désespérer jamais, c'est là sans doute un des commandements que le chrétien doit suivre. Jésus n'est pas venu pour les bien portants, mais pour les pécheurs. Les justes n'ont pas besoin de salut, mais ils doivent se réjouir avec Dieu chaque fois qu'un pécheur est sauvé par l'amour de Dieu. Cette parabole est pleine d'ironie pour les scribes et les pharisiens qui se croient du côté des justes parce qu'ils connaissent par cœur la Torah et qu'ils l'utilisent comme critère dogmatique pour juger la vie des autres. Mais dans le livre des Proverbes, on trouve cette interrogation « Qui dira « J'ai rendu mon cœur sans reproche, je suis pur de tout péché. » Personne n'est sans péché. Ainsi, les scribes et les pharisiens sont invités, comme les pécheurs et les collecteurs des taxes, à se placer au bénéfice du salut de Dieu. Dans cet intervalle de changement radical toujours possible et toujours à renouveler, les uns sont appelés à se sentir dignes de l'amour de Dieu malgré leur réputation, leur différence ou leur marginalité, et les autres sont invités à croire qu'il leur est possible de changer de regard et d'abandonner tout jugement définitif sur leurs frères. Le changement et l'espoir de changement sont donc plus conformes à l'idée du christianisme que tous les dogmes établis pour toujours par les hommes. Ces dogmes qui sont là pour dire quand est-ce qu'on est dans la norme ou pas. Nous avons donc de bonnes raisons d'être joyeux quand nous parlons du péché aussi. Non pas parce que le péché serait bon, mais parce que le péché fait partie de nous et qu'à cause de lui, nous sommes appelés au changement. Et que sans doute, c'est à cause de lui aussi que nous pouvons faire connaissance avec ce Dieu qui nous aime. S'il n'y avait pas ce creux du péché en nous, il n'y aurait pas de place pour Dieu. C'est cette conversion constante qui fait que nous sommes des chrétiens comme le Christ le souhaite dans ses évangiles. Quand bien même la grâce de Dieu serait promise, elle est à recevoir et à transformer en œuvre constamment. Ce n'est jamais acquis pour toujours. Et cela est une grande espérance pour nous. Non seulement nous ne pouvons juger personne définitivement perdu, mais nous-mêmes, quand nous sommes perdus, nous ne pouvons pas dire que c'est définitif. Sans doute aucun de nous ici ne pourra jurer qu'il n'a jamais fait le mal. Seuls peut-être les deux petits-enfants qui viennent d'être baptisés sont exempts de toute faute. Sans doute aussi que beaucoup ici ont déjà désespéré de l'amour de Dieu pour eux ou pour ceux qu'ils aiment dans les épreuves. Nous sommes tous pécheurs, parce que notre humanité nous sépare de Dieu, parce que nous ne sommes pas Dieu et que nous ne pouvons pas réaliser ses œuvres comme il nous le demande. Mais la bonne nouvelle est que cette situation est appelée au changement et que la promesse de Dieu, c'est que cette condition humaine est sauvée par son amour inconditionnel pour nous. Confesser notre péché, ce n'est pas déprimant ou culpabilisant, c'est aussi important que de confesser notre foi. À vrai dire, c'est la même chose, puisque nous croyons en un Dieu qui nous sauve de toute indignité. Cette église est celle des boiteux de la foi, des rejetés, des non-conformes, des incapables, des perdus. Oh, pas tout le temps, bien sûr, mais à certains moments de leur vie. Parce que cette église, c'est celle où résonne la joie du ciel chaque fois qu'un de ceux qui étaient perdus entend une parole de salut et se relève. Une parole d'accueil, une parole d'amour, une parole de pardon, une parole de réhabilitation. Chaque fois qu'un mouton égaré est repris sur les épaules du berger et ramené dans le peuple que Dieu aime et conduit. Un peuple de pécheurs pardonnés, un peuple d'hommes et de femmes relevés par une parole de grâce, alors il y a de la joie dans le ciel. Alors il faudrait qu'il y ait de la joie pour nous aussi, ici sur terre. Alors bienvenue aux enfants qui entrent aujourd'hui dans la joie du ciel et bienvenue à tous ceux qui se sentent perdus et attendent un berger. Ici, les amis de Dieu se réjouissent du salut de chacun. Amen. Je vous invite à chanter le psaume 150, le cantique 150.
Thank you.
Voilà, je vous invite à vous asseoir et c'est le moment de partager quelques annonces.
Merci. Bonjour à tous et bienvenue dans ce culte, en particulier à Balthazar et à Marc-Olivier qui sont très sages pendant tout ce long culte. Merci à Béatrice Cléromazir, notre pasteur, pour cet hymne à la joie relayé musicalement par Sarah Kim, notre organiste co-titulaire, et son ami Brian Kim qui nous fait le plaisir de l'accompagner à la flûte aujourd'hui. Merci à tous les deux. À l'issue de ce culte, vous avez un verre de l'amitié qui est organisé dans la sacristie. Vous êtes tous cordialement conviés. Alors, quelques annonces pour la semaine. C'est la rentrée qui devient progressive. On commence jeudi prochain par la rentrée du chœur de l'oratoire à 19h30 ici dans le temple avec Fabien Aubé, notre maître de chapelle, et Alexandre Korovitch qui l'accompagne. C'est de 19h30 à 22h. Et là, j'ai une petite annonce particulière pour tous les choristes confirmés sur les quatre pupitres. Fabien recrute et vous pouvez le faire. Alors, il y a un site, vous pouvez aller sur recrutement.coeur.oratoire@gmail.com. Samedi, c'est le pasteur Gilles Castelnau qui reprend les cours d'hébreu biblique découverte dans la salle Verne de 10h à 11h. Il y a également dans le temple, samedi ici à 11h, un culte d'action de grâce à l'intention de Madame Nicole Durand-Réville. C'est à 11h et c'est Béatrice qui présidera le culte. Dimanche prochain, c'est la rentrée de l'éducation biblique. Donc c'est à 10h30 ici au culte pour tous les enfants, depuis l'éveil biblique jusqu'à la catéchèse. Pour les parents qui n'ont pas encore inscrit leurs enfants, vous pouvez trouver à disposition dans le temple le bulletin d'inscription et aussi sur le site de l'oratoire. Je vous rappelle que ce site est tout à fait régulièrement alimenté par notre ami Jean-Luc Buisson qui se cache au fond du temple. Vous avez toutes les informations, toutes les activités, tous les événements, donc n'hésitez pas à aller vous informer sur le site. Une exposition est également aujourd'hui inaugurée hier, mais qui a lieu pendant pendant au moins deux ou trois mois. Ce sont les ateliers Grisou qui l'ont réalisée. Elle se situe autour du monument de Gaspard de Coligny. Elle va être ouverte à l'issue du culte pendant une heure. C'est donc le monument qui donne rue Rivoli. Pour ceux qui souhaitent y aller, c'est avec plaisir. Je voulais encore vous dire que la semaine prochaine, il n'y aura pas de garderie. La maison presbytérale est en travaux et les travaux ont pris, comme tous les travaux, un peu de retard. Mais ça ne saurait tarder. La semaine prochaine, ça ne sera pas encore prêt. Voilà, maintenant c'est le moment de l'offrande. Je vous remercie à l'avance de toute votre générosité qui nous aide justement à mettre en place l'ensemble de ces activités et elles sont nombreuses. Merci à vous. Thank you.
nous nous réunissons dans la prière. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui se sentent indignes dans leur vie et qui ne trouvent pas de main tendue vers eux. Fais-nous porteurs de ton espérance et de ton amour, Seigneur. Permets que les églises prêchent ton amour et non leur pouvoir. Donne-nous l'audace d'aller vers ceux que la société rejette. Donne-nous de croire toujours qu'aimer un frère, c'est lui redonner vie. Nous sommes ceux de la religion du crucifié, celui qui a été rejeté parmi les brigands, les bandits. Nous sommes de la religion du ressuscité, celui qui s'est relevé malgré l'opprobre et l'indignité. Donne à nos églises l'audace d'aller dire que l'homme parfait n'est pas ici, de ce monde, et que l'homme avec toutes ses errances est enfant de Dieu. Nous te prions, Seigneur, pour nos frères et sœurs qui supportent en ce moment même les aléas d'un climat qui les fait souffrir. Donne-nous d'être attentifs à nos activités humaines et de ne pas remettre à demain ce que nous pouvons faire maintenant pour que notre terre continue à être habitable. Nous te prions ce matin pour des enfants, d'autres enfants qui sont loin de nous à Madagascar, dans l'orphelinat Topaza, là où nos sœurs sont allées les voir. Fleurette et Sophie sont auprès d'eux. Nous te demandons, Seigneur, ta bénédiction pour tous ces enfants et un avenir radieux. Donne-nous de toujours soutenir ces enfants et de comprendre comment leur vie se déroule là-bas, si différente de celle des enfants d'ici. Retire de nous tout jugement et place la générosité au cœur de nos vies. Ensemble, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, c'est la grâce que vous avez reçue ce matin, une grâce renouvelée sur vos vies, et vous pourrez la partager avec tous ceux qui, ailleurs, cherchent une lumière dans leur vie. Allez dire à tous que le Seigneur les aime. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur qui fait grâce nous bénit et nous garde. Amen.
Je vous invite à vous asseoir. Et ceux qui doivent partir très vite, vous pouvez partir très vite. Mais nos musiciens jouent pour nous ce matin.